Bonsoir, bienvenue à toutes et tous. Nous remercions les salons Albert Mola de nous accueillir dans ce magnifique endroit qui est très propice aux échanges et qui est un lieu au lieu de Bordeaux. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Bordeaux, mais nous sommes ravis de nous associer à l'événement que Mola organise en invitant un auteur ce soir, Frédéric de Gelt, qui a écrit ce roman Les brumes de l'apparence. Nous avons l'habitude d'organiser tous les ans un événement autour d'un auteur. Et votre livre nous a particulièrement parlé, puisque nous sommes une association de femmes chefs d'entreprise et que votre héroïne est une femme chef d'entreprise qui a une quarantaine d'années, donc ça correspond à peu près à la moyenne d'âge, on va dire, des femmes de notre association. C'est une maman, comme beaucoup d'entre nous, qui doit conjuguer entre sa vie sentimentale, son métier, son devoir de maman. Elle se heurte là au départ de son fils, donc qui est un événement un peu marquant dans la vie d'une femme. Et surtout, ce qui nous a plu dans ce roman, c'est sa relation aussi avec son associé, hein, en dehors du cœur, évidemment, du fond de votre roman, hein, sur l'aspect médium, rapport avec les morts. Et, nous, c'est ce qui nous a parlé dans cette héroïne, et son lien aussi avec son associé, leur partage de relations entre l'une qui a le côté créatrice et plus modérée, qui vient tempérer ses ardeurs et les codifier un petit peu. Voilà, c'est pour ça que nous avons...
Les chiffrer même.
Les chiffrer, exactement. Parce qu'à un moment, voilà, en face du rêve, il faut mettre des chiffres pour voir si la réalisation est possible, tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons bien aimé votre roman, qui s'inscrivait bien. Alors au départ, effectivement, le sujet peut sembler loin des préoccupations des chefs d'entreprise que nous sommes. Et puis finalement, à la lecture du roman, on se rend compte que les préoccupations peuvent tout à fait se rejoindre et se lier à la vie professionnelle. Voilà, c'est pas forcément un frein ou quelque chose totalement en opposition avec la vie d'une femme épanouie, maman et chef d'entreprise. Voilà.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses sous-jacentes, y compris, et c'est ce qui rendait cette rencontre intéressante, c'est parce que je pense que vous allez parler de ces choses sous-jacentes dont on ne me parle jamais, puisqu'on me parle principalement de cette femme qui, effectivement, voit toute sa vie bouleversée par le fait de soudain voir les morts. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en filigrane, y compris cette place d'une femme qui a relativement réussi, puisqu'elle est quand même dans un tissu social plus qu'agréable, etc., et positionnée par rapport à la réussite de son mari sur un autre domaine, et tout va bien jusqu'à ce que quelque chose soit dans l'engrenage. Et donc c'est ce qui m'intéressait, puisqu'au départ, c'est important de vous le dire, je n'aurais jamais dit oui si on m'avait proposé ce sujet. Je ne travaille pas avec un sujet. Je suis partie avec l'idée que j'allais avoir une femme. Ma question était, une fois qu'on a construit son environnement, on est dans un endroit, on grandit dans un endroit, on va à l'école quelque part, on a certains parents, un certain milieu social, dont on sort ou dont on ne sort pas. Une fois qu'on est arrivé à peu près la quarantaine, est-ce que toutes ces choses qui sont inscrites sur notre panneau publicitaire, je dirais, ce qu'on est, là où on est arrivé, à la place qu'on occupe, est-ce que la personne qui est à l'intérieur est raccord avec tout ça ou pas? On épouse un certain homme, enfin voilà. Il y a toutes ces choses-là. Et c'était ma question de départ. C'était, est-ce que ces apparences, cette première chose qu'on voit, c'est raccord avec la personne? Donc j'étais vraiment dans quelque chose qui n'était pas au départ... Bon, après, l'héroïne m'a foutu un bazar incroyable et j'ai pas pu m'en dégager, et pour cause. Mais y avait ce truc-là, y compris cette image de la femme qui est quand même avec un type dont elle est un peu la poupée, quand même.
Oui.
C'est pas
elle
dit comme ça.
Elle est à l'image de ce qu'il veut qu'elle soit.
Oui, voilà. Ouais. Et tant que tout roule, ça va. Mais tout d'un coup, si on va plus profond que cette apparence... Voilà, j'ai été très frappée. J'aime beaucoup les rencontres avec plein de femmes. Alors, c'est formidable parce qu'il y a 90% de nos lectrices sont des lectrices, des lecteurs sont des lectrices. Et c'est bien aussi qu'il y ait cette part de lecteurs hommes qui viennent en petite part, mais qui sont là. Il y en a toujours une petite proportion qui viennent mettre un bémol dans ces rencontres de femmes. Mais dans ces rencontres de femmes, j'apprends moi beaucoup de choses. Il y a tout cet échange qui est nourrissant, je dirais. Et en général, d'ailleurs, très intergénérationnel, puisque un de mes livres a été justement sur l'amitié d'une petite fille avec sa grand-mère. Et donc, les rencontres sont en général, justement, très intergénérationnelles.
Ah, nous avons un panel un peu représentatif
complètement
ce soir,
complètement
de vos lectrices en général, c'est... avec le petit quota de lecteurs.
Absolument, absolument.
Donc je vais peut-être laisser la parole à nos deux membres de l'association qui ont préparé beaucoup de questions pour vous.
Donc on est plusieurs à avoir lu le livre et hier on a travaillé, on l'a lu et on a voulu échanger sur ce qu'on avait ressenti sans à brut de décoffrage pour voir. Et finalement nos sentiments ils étaient un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'à l'origine c'est pas forcément le thème qu'on aurait choisi. Si on nous disait vous allez lire un livre sur la spiritualité, le côté médium et tout ça, c'est pas forcément le sujet qu'on aurait choisi. Et pourtant, on était très heureuse de l'avoir lu. Et même, c'est plus que ça, c'est presque un livre qu'on vit. Il est déroutant, c'est le mot qui nous est venu. C'est-à-dire qu'il est déroutant dans le sens littéral des choses. Il nous questionne sur notre train-train quotidien. Voilà. Et je pense que quand vous disiez « j'ai pas voulu faire un livre forcément sur le médium, mais plus sur quel est le tableau finalement qu'on peint, est-ce qu'on y a notre place ou pas ? » Il y a un passage dans le livre qui repart en ça. C'était vraiment le sentiment de, quand on a fini le livre, on s'est dit « mais est-ce que moi je vis ma vie ? Est-ce que je serais prête à affronter des chamboulements ? Comment je le vivrais ?» On a trouvé que c'était très courageux d'aborder ce thème qui est très périlleux à la limite de la religion.
Je suis désolée de vous décevoir, je n'ai pas été courageuse,
ah oui.
J'ai été inconsciente.
Alors vous êtes inconsciente. Non, parce que c'est un thème qui fait, quelque part, qui fait sourire la spiritualité, enfin le côté médium, si on en parle, les gens, tout le monde y croit un petit peu, mais ne veut pas trop le dire, enfin voilà, il y a une espèce de c'est presque intime, enfin, on a eu ce sentiment-là, parce que du coup, on s'est lâché, on en a parlé à d'autres, et on a eu ce sentiment que ce n'était pas un sujet comme les autres.
Vous avez raison. Même au sein de la maison d'édition, ça n'était pas un sujet comme les autres. Et je vais vous raconter une anecdote qui fera bien entendre la chose. Notre directeur éditorial, qui est celui qui vient derrière mon éditrice, puisqu'au départ, mon éditeur, c'était Hubert Nissen. Et puis, quand il est mort, j'ai changé, j'ai eu une éditrice. Donc, l'éditrice lit le livre, prend les responsabilités, etc. Et le dernier, quand le livre est complètement terminé, c'est le directeur éditorial d'Actes Sud qui le lit. Il l'a donc lu, et donc après on s'est vu, et il m'a dit « En tant qu'éditeur, j'y crois beaucoup, j'ai beaucoup aimé ton livre, en tant que personne, je n'y crois pas du tout. » Et donc, je suis très cartésien, et je le regarde, et je lui dis « Mais Bertrand, tu veux croire à quoi ? C'est une fiction ? C'est un roman ?» Et là, il a été coincé. Parce que moi, je ne suis pas obligée de prouver que mon livre est vrai, après tout, on peut lire ça comme une jolie histoire. Simplement, il a été coincé parce que, comme le sujet est un peu délicat, justement, il s'est retrouvé coincé. Et c'est un très gros problème qu'on a en France et en Europe, principalement. Pour tout vous dire, je ne suis pas traduite en Allemagne avec ce livre-là, alors que je suis traduite avec tous les autres. Parce que notre côté cartésien est absolument épouvantable, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas du tout un souci. Si vous dites à un Brésilien « j'ai vu ma grand-mère au pied de mon lit hier soir alors qu'elle est décédée depuis 3 ans », le Brésilien vous répond « oui, et alors ?» Chez eux, ce n'est pas un souci. Moi, j'ai un fils qui vit en Thaïlande. En Thaïlande, le problème n'est pas de savoir si vous croyez aux fantômes, c'est de savoir si vous avez déjà vu un fantôme. Donc, ils sont déjà passés au truc suivant. Donc, c'est un sujet compliqué chez nous, mais qui ne l'est pas chez tout le monde et qui ne l'est pas partout aussi. Plus on, ça dépend de dans quel milieu on vit, ça dépend aussi de plein de choses qui font écran à ça. Si vous êtes à la campagne, si vous êtes... Il y a plein de récits qui étayent ça de façon tout à fait normale, et la fermière n'est pas du tout étonnée que le jour où elle vend l'un de ses deux taureaux reproducteurs, l'autre qui est à 2 kilomètres de là, il n'est pas au courant qu'on a vendu son pote, qui dominait tout, se comporte comme un taureau reproducteur. Et la fermière ne se demande pas comment ça marche.
Oui, elle pense que c'est normal.
C'est normal.
C'est naturel.
Elle note. Elle voit bien que l'autre se comporte comme ça, et alors qu'elle a vendu son pote. Mais elle ne sait pas comment ça marche. Donc c'est... à la fin de chaque livre, j'ai une phrase qui vient, qui n'est pas dans le livre. D'une certaine façon, c'est une façon au livre de me dire que c'est fini. Donc la phrase est différente, évidemment, à chaque livre. Elle vient me dire pourquoi ce livre existe. Et la phrase qui est venue à la fin de celui-ci, c'était « Quand on ne sait pas d'où on vient et qu'on ne sait pas où on va, il est absolument déraisonnable de vouloir faire abstraction de l'irrationnel. » C'est lumineux.
Oui.
Et justement, par rapport à ça, donc on se... Si, pardon. Vu que justement, vous vous êtes laissé porter donc, par ce personnage qui vous a mené jusque, enfin, dans cette aventure, comment un auteur est mené par un personnage ? Est-ce que vous pouvez nous... Voilà, parce que donc, nous, nous n'écrivons pas de romans.
Alors,
la relation, quelle est la relation qu'on tisse avec un personnage lorsqu'on est écrivain ?
D'abord, c'est lui qui décide de tisser une relation avec vous. Déjà, ça commence comme ça. Évidemment, on est tous différents là-dessus. Et certainement que plein d'auteurs vous diront des choses complètement différentes. Je note quand même que dans les auteurs hommes, il y en a quand même beaucoup qui racontent qu'ils possèdent tout. Le début, la fin, la structure, ils ne sont pas du tout possédés par le truc. De temps en temps, ils avouent que quand même, ils ont été entraînés par le personnage, mais c'est juste sur la pointe des pieds. Les femmes n'ont pas de problème avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Le fait de ne pas décider de tout à toutes les étapes ne les dérange pas. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait l'aventure charmante. C'est la façon dont on se laisse embarquer. Donc moi, j'ai un personnage, il arrive. Pour vous donner un exemple très précis, Gabrielle est arrivée comme ça, avec son mari, chirurgien esthétique, son âge, ce qu'elle faisait, et le fait qu'elle avait hérité d'un terrain au milieu de nulle part. Voilà. Pour tout, et je n'aimais pas Gabrielle quand elle est apparue. C'est-à-dire que cette femme très parisienne, assez méprisante, passer le périph', c'est des provinciaux et danser tous des péquenots, ça me plaisait pas du tout, parce que je ne suis pas comme ça. Je suis née ici, dans cette ville. J'y ai vécu 20 ans. Je ne suis donc pas une parisienne. J'en connais beaucoup, des comme ça. Elles sont vraiment comme ça. Et notamment la télé, il y en a beaucoup. Quand un personnage vous est pas sympathique, c'est compliqué. Parce qu'évidemment, il amène des choses qui vous plaisent pas et que vous êtes obligé d'accepter. Ou alors, vous le gommez et vous le transformez. Mais là, ça n'a plus de charme. C'est difficile de vous expliquer comment ça se passe, comment on est entraîné par ça. Chaque livre s'écrit. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque livre, je regarde ce truc de 350 pages ou de 400 pages et je me dis, waouh, il y a 400 pages, j'en ai écrit 15, qui a écrit les autres ? Je sais que c'est moi. Et je sais que si vous me citez une phrase du livre, je peux la continuer jusqu'au bout. C'est donc bien que je la connais, cette phrase. Mais je ne sais pas tellement comment ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une... Comme l'électrice souvent me disait jusqu'à ce livre-là, « Ah, c'est toujours des héroïnes !» Je dis, bah ouais, c'est vrai, ils ont raison, c'est toujours des héroïnes. Mais le problème, c'est que je peux faire une réponse. Je peux dire, ma part masculine en veut beaucoup aux femmes, alors finalement, je réfléchis longtemps, ou j'apprends à pisser debout. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire là-dessus, mais oui, c'était des héroïnes jusqu'à maintenant. Il se trouve que le prochain, c'est un héros. Je n'ai pas fait exprès. Il est arrivé, et c'est un héros, et il est handicapé. Pas de pôle, première fois que j'ai un héros, il est handicapé. Mais bon, j'ai pas choisi, c'est comme ça. C'est le... Donc le personnage, il est non seulement dans son arrivée très mystérieux, mais dans la suite des choses aussi très, très mystérieux. Je choisis pas un personnage qui m'est opposé ou qui me ressemble. Tout le monde me disait, bon, par exemple, Jade, dans La grand-mère de Jade, effectivement, elle est journaliste. Mais moi, quand j'ai écrit La grand-mère, j'avais plus l'âge de Jade et j'avais pas encore l'âge de la grand-mère. Donc, du coup, j'étais entre les deux, ce qui était assez confortable, finalement. Et quand j'étais l'une des deux, j'étais plutôt la grand-mère, en fait. D'ailleurs, j'ai ma tension qui est tombée à 8, je marchais super lentement dans la rue. J'appelais mon éditeur en lui disant, c'est affreux, je vais très mal. Là, j'ai 80 ans. Il me disait, t'as vu, c'est pas drôle, parce que lui, il les avait, donc... Et donc, voilà. Et Gabrielle, bah, plus le livre avançait, plus je sentais près d'elle, parce que elle était sympathique, elle devenait sympathique dans ses failles, dans ses manques, dans la façon dont elle était paumée par ce qui lui arrivait. Et surtout, quelqu'un qui a plein de doutes, c'est toujours plus sympathique que quelqu'un qui a plein de certitudes. Du coup, je me sentais plus proche d'elle à mesure que le livre avançait. Et puis j'avais peur. Moi aussi, j'avais peur, en fait. Je ne voulais pas y aller dans son machin. C'est la première fois que j'écrivais un livre qui me foutait la trouille, parce qu'en plus, ça s'est passé vraiment. Au début, je pensais que c'était le livre qui faisait ça. Mais au bout d'un moment, je commençais à écrire comme ça. Il y avait des choses bizarres qui se passaient dans ma vie. Je sentais vraiment un accompagnement. Si bien qu'il y a un moment où j'ai abandonné la peur. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, OK, il faut arrêter d'avoir peur. Je vais faire comme on lui propose à Gabrielle. C'est-à-dire que je vais me laisser aller. D'ailleurs, la tante, elle lui explique bien à un moment, elle lui dit ce côté médiumnique, elle l'a utilisé sans le savoir, avec ses intuitions, dans son métier, dans sa façon de vouloir d'un contrat impossible et de ne pas vouloir d'un contrat qui semblait plus intéressant. Il y a bien des choses qui font que dans la vie, vous comportez quelquefois avec les signes et avec les intuitions. Et c'est ça qui fait d'ailleurs des chefs d'entreprise, des femmes que je trouve très très intéressantes, parce qu'elles ont cette façon justement d'être d'accord avec cette intuition et de la laisser s'exprimer.
Donc pour vous, l'intuition, elle est très souvent féminine alors? Enfin, je sais qu'il y a un des personnages qui est à la fin, qui est bien plus ouvert et qui va lui apprendre d'autres choses, mais en tout cas, la lecture du livre, j'avais l'impression que c'était effectivement
Comment vous dire ? Quand j'ai lu Carole Martinez et que je suis tombée sur cette phrase « Tout ce qui n'a pas encore été écrit est féminin », j'ai arrêté de lire pendant 3 jours pour réfléchir. Je me suis dit « Mais c'est merveilleux de dire ça parce que c'est tellement vrai. C'est tellement... Mais beaucoup d'hommes en conviennent d'ailleurs. Je me rappelle d'un ami qui me disait je comprends pas comment ça se fait qu'à âge égal, on avait le même âge, vous soyez tellement plus mûrs que nous. Je lui dis, en fait, on vous met au monde, on vous embaume, et entre les deux, on sèche vos larmes. Donc ça calme quand même. Hein. c'est vrai qu'à 20h30, quand il faut coucher les enfants, c'est plutôt eux qui font les andouilles avec. Et nous, on est dans le fait qu'il faut qu'ils se couchent à 20h30. Sinon, ils seront fatigués demain. Il y a une espèce de côté ludique qui nous amène. Heureusement qu'il nous l'amène. Sinon, on se fait vachement... il y a une complémentarité qui est... extrêmement intéressante, mais cette histoire d'intuition qui est vraie dans l'écriture, parce que l'écriture, c'est une forme de médiumnité. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai accepté. Par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. Il y a un matin où je me suis dit, je ne vais pas écrire. Ce matin, je vais aller à Villejuif, au service des soins palliatifs. Parce que là-bas, il y a plein de gens qui s'en vont, donc peut-être je vais apprendre des choses. Alors, je vous laisse imaginer la tête de l'infirmière. Je débarque, j'en chope une dans le couloir et je lui dis, je suis romancière. Je lui raconte l'histoire que j'étais en train d'écrire. Et je lui dis, comme on est dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui meurent, je voudrais savoir si vous sentez qu'il y a des gens qui viennent les chercher. La femme, elle me fait, ah ben vous alors? C'est tout ce qu'elle a dit. Et puis, elle me dit, écoutez, il est 11h30, on va faire une petite pause à 12h30. Revenez dans 1 heure. Et donc, je reviens. 1 heure après, on se met dans leur petite cuisine. Hein. dans le petit centre des soins, là. Et la question était tellement trash que finalement, la réponse l'a été aussi. Elle m'a dit, bon, ben voilà, vous nous avez posé la question comme ça, alors on va vous répondre comme ça. Évidemment qu'il y a des gens qui viennent les chercher. Aucune infirmière qui bosse dans un centre de soins palliatifs vous dira l'inverse. Je lui ai dit, mais ça se manifeste comment? Elle dit, ben on le sent. D'abord, on sent des courants froids. Et puis, il nous arrive des histoires extraordinaires, genre toute la famille qui revient à minuit, alors que le type ne va pas forcément mourir ce soir, et qui dit, on ne sait pas pourquoi, on est désolé, ce n'est pas l'heure des visites, mais on est tous revenus. Et en fait, oui, le type meurt ce soir-là avec toute sa famille autour. Intuition. Et des histoires comme ça, elles en ont, mais à l'appel. Et elles me racontent, effectivement, alors il y en a une plus vieille que les autres, qui allait être à la retraite un mois après, qui me dit, moi je m'en fiche, maintenant je suis vieille, je vais être à la retraite, donc je parle. Quand je vois quelqu'un, un homme ou une femme, qui commence à s'adresser dans la pièce à quelqu'un qui n'est pas là, je sais qu'il ne va pas tarder à s'en aller dans une semaine. Et que cette personne qui, pour moi, n'est pas là, il la voit, lui. Il est déjà passé un pied de l'autre côté et lui parle. Elle dit, évidemment, je ne dirai jamais ça au médecin, forcément. Parce qu'il dira, c'est le dosage des médicaments, mais le dosage des médicaments n'a pas changé depuis un mois ou deux mois. Simplement, la personne est en train de faire un chemin et elle est en train d'être à moitié ici et à moitié là-bas. Et donc, ces femmes ont appris à poser des questions, à dire bah, « Alors, c'est qui est là ce matin ?»« Ah, bah, c'est ma femme qui est morte il y a 2 ans. »« Ah, bah, très bien, elle va bien, votre femme, et tout ça. » Et elles travaillent avec ça, et elles accompagnent avec ça, et ça marche très bien. Et voilà, donc, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance et puis il y a eu des moments où j'ai essayé de m'échapper. Alors, quand j'ai essayé de m'échapper, ça donnait « je pars en signature » alors que je ne pars jamais en signature et en rencontre quand je suis en train d'écrire. Petite exception ici, là, parce que je suis en train de finir le prochain. Et en fait, ça donne ça. Il y a une madame qui vient me voir en me disant « oh là là, j'ai adoré la grand-mère de Jade, je peux vous serrer la main ». Elle me prend la main comme ça, puis elle me dit « ah ». Ah, c'est bien d'écrire sur ce sujet, on en a besoin, nous, les médiums. Voilà, mes échappatoires, les essais, on va dire. C'était un livre éprouvant, à cause de ça.
Justement, dans le livre, on a été intéressé par le dialogue un peu de sourd avec la médecine, donc, dont vous venez de parler. Vous avez dit, les médecins, ils diront jamais ça. On a eu l'impression que... Quelque part, dans votre livre, il y avait l'idée que la communauté scientifique était prête à accepter, notamment, il y a la citation du prix Nobel qui dit « peu importe, je crois, les molécules, l'important, c'est les liens entre elles ». Donc, comme si la communauté scientifique, pour elle, c'était une évidence qu'il y avait l'existence de cet après proche de ce... Enfin, voilà,
qu'il y avait... C'était pas de la communauté scientifique.
Voilà,
hein.
Mais qu'il y avait presque un début d'acceptation de la communauté, et par contre, un refus catégorique de la médecine.
C'est pas dans sa culture. C'est pas dans la culture. J'ai vécu une fois cette discussion avec un médecin qui voulait faire absolument une amniosynthèse dans le cas d'un avortement thérapeutique. Et je lui ai dit, nous sommes dans une perspective différente. Vous êtes dans la perspective d'un fœtus à examiner, je suis dans la perspective d'un enfant qui s'en va. Donc votre pouvoir de médecin s'arrête où commence mon pouvoir de mère. Et la personne qui était avec lui a dit, ce que vous demandez, c'est un geste sans comprendre et ça n'est pas dans notre culture. Voilà, c'est important, ça n'est pas dans leur culture et ça n'est pas tous les médecins. C'est-à-dire que moi, pour ce livre, j'ai rencontré un cardiologue qui travaille sur les NDE, donc les Near Death Experience, qui sont ce qu'on appelle nous les expériences de mort imminente, EMI, c'est-à-dire quand le cœur est mort, le cerveau ne fonctionne pas, et que vous avez la personne qui se retrouve au-dessus d'elle, qui se voit, et qui dit « Ouh, je suis là, mais je vais très bien, tout va bien », et personne n'entend évidemment, et eux, ils sont en bas en train de bosser en disant « on la perd ». Bon. Donc ce type travaille là-dessus, il est cardiologue, et il a fait des milliers maintenant d'interviews de patients qui ont vécu ça. C'est quand même 2 personnes sur 5 qui souvent n'osent pas en parler, d'ailleurs, parce qu'ils ont peur qu'on les prenne pour des dingues. Mais quand ils parlent, ils ont des choses communes. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas du tout un rêve. Ils n'ont pas rêvé. Ils étaient vraiment vivants. Ils étaient au-dessus d'eux. Alors, quelquefois, ils ont vu la lumière blanche. Quelquefois, ils ont vu des gens qu'ils connaissaient. Les expériences ne sont pas tout à fait semblables. Et donc, ce type fait une conférence, raconte ce que les patients vivent. Moi, je l'avais interviewé et je lui avais dit, mais comment vous, un médecin, je pousse un peu du mauvais côté, un mec scientifique peut croire à ce truc-là. Il me dit, mais écoutez, moi, j'ai commencé à bosser là-dessus parce que tout d'un coup, un type m'a raconté ce qui s'était passé dans la pièce, ce qui s'était dit dans la pièce et dans la pièce d'à côté aussi, et le numéro de la table sur laquelle je l'ai opéré. Lui ne sachant même pas qu'il y avait un numéro sous la table sur laquelle il l'avait opéré. Et ce type s'est dit, bon, s'il est capable de me dire ça, c'est que quelque chose, quand le cœur est mort et que le cerveau ne fonctionne plus, quelque chose fonctionne. Justement, il me dit, je suis un scientifique, donc je constate que quelque chose fonctionne. Je ne sais pas comment ça s'appelle, si ça s'appelle l'esprit, l'âme ou autre chose, mais en tout cas, pour moi, vous comprenez, le cerveau ne fonctionne plus, ça veut dire qu'il n'y a pas de mémorisation. Et s'il raconte ce qu'il s'est passé, ça veut dire qu'il y a une mémorisation. Donc, il y a quelque chose. Néanmoins, il était à l'aéroport, hein, il n'est pas allé prendre l'avion puisqu'il est revenu. Donc ça n'augure pas du fait qu'ensuite, il y ait une vie après la vie qui dure longtemps. C'est restons scientifiques. Bon. Donc ce type me dit ça, il a fait des tas d'interviews, et dans la salle de conférence, il y a un type qui se lève et qui dit « Moi, je suis cardiologue, jamais mes patients m'ont parlé de ça, ce que vous racontez, c'est des conneries. » Très bien, il y a un autre mec qui se lève qui dit « Monsieur, je suis votre patient, j'ai vécu une EMI, mais vous êtes la dernière personne à qui je l'aurais raconté. » Les gens savent. Ils savent bien. Moi, j'ai bossé avec Michel Simès quand j'étais journaliste. Je filmais des trucs hallucinants. Je me rappelle d'avoir filmé un ophtalmo qui faisait un fond d'œil à une madame qui voyait de moins en moins, qui lui dit « J'ai commencé à ne plus voir, je vois de moins en moins depuis l'année dernière. » Puis elle lui explique que son mari est mort, que son fils est parti de la maison. Elle lui explique qu'elle ne veut plus voir, quoi. Et le mec, il continue à lui filer des gouttes, à ne pas l'écouter, quoi. Il y a, pas plus tard qu'il y a 6 mois, un cardiologue qui m'a dit qu'il en avait marre que ses patientes lui racontent ses histoires de cœur. C'est-à-dire que le mec, il ne fait même pas le lien entre le siège du sentiment et l'organe, parce que c'est un organe, qu'il soigne. Donc, il y a, dans la communauté scientifique et dans la communauté médicale, une partie des personnes qui sont... voilà, qui ferait bien de lire juste la première, le premier truc in Kipit, là, un esprit c'est comme un parapluie, ça ne fonctionne qu'ouvert. Les gens qui ont trouvé des choses dans les scientifiques sont que des gens qui ont dit, bon, là j'ai appris qu'on pouvait pas y aller par là. Et pourquoi d'ailleurs? Ben d'ailleurs, moi je vais essayer d'y aller par là. C'est comme ça qu'on découvre quelque chose. Si on est dans les chemins, on découvre rien. Et en fait, c'est ça le problème. J'ai reçu 2 lettres par jour avec ce livre pendant 1 an et demi. Et une des lettres qui m'a le plus bouleversée, oh, je ne sais pas si c'est... Il y en a beaucoup qui m'ont bouleversée. Mais celle-là, particulièrement, c'est un monsieur qui m'écrit en me disant « Voilà, je suis chercheur en biologie moléculaire. Alors autant dire que j'aime beaucoup le propos scientifique de votre livre, le propos philosophique, mais alors le reste, j'ai un peu de mal. » Mais quand même, vous dites qu'il faut demander, que pour faire une expérience de ça, il faut demander. Et donc, ça l'interpelle, parce que c'est ce qu'il fait tous les jours. Il demande et il fait des expériences et il essaye de faire des choses. Et donc, il dit, bon, ben, je me suis dit, je vais faire comme elle dit. Donc, il demande à la personne qu'il a le plus aimé au monde, et qui, il ne me dit pas qui, mais qui est décédée l'année dernière, de lui faire un signe. Et cette personne lui fait un signe absolument incontournable le lendemain matin. Et là, il me dit, du coup, je me suis dit que votre livre n'était pas un roman, mais un manuel. Et donc, je vous remercie. Et ça, c'est des lettres extraordinaires, parce que tout d'un coup, c'est quelqu'un qui se dit, et si c'était vrai? Ça, c'est merveilleux, parce que c'est le moment de bascule entre la fiction et la vie réelle. En fait, dans la fiction, on ne fait que raconter des trucs réels, même s'ils n'ont pas existé. On ne fait que raconter des choses qui sont très en deçà, d'ailleurs, en général, de ce qui existe. Parce que si on racontait ce qui existe, mais on serait des auteurs barrés à l'ouest. Personne ne vous croirait. Il y a des choses dans la vie, même les répliques. Même les répliques, on est très en deçà. J'ai une amie qui a trouvé sa meilleure amie dans le lit conjugal et son mari a eu cette phrase absolument sublissime que jamais je n'oserais mettre dans un bouquin. Il lui a dit « c'est parce que tu crois, on concrétise notre amitié ». C'est quand même fabuleux. Je ne pourrais pas mettre ça dans un bouquin parce qu'on dirait « elle s'est fait plaisir, elle a voulu faire du dialogue et tout, elle se prend pour Audiard ». Jamais je mettrais ça dans un livre. Mais c'est une histoire vraie, c'est un truc vrai. Donc on est très... Ouais, on est en retrait.
En parlant d'Audiard, justement, il y a cette très belle citation dans le livre, la campagne, donc que moi j'ai très souvent ressentie, mais qui fait vraiment justement écho. Le personnage s'ouvre enfin lorsqu'elle est à la campagne. Mais au début, elle commence. La campagne, c'est affreux. La journée, on s'ennuie. La nuit, on a peur. Mais la journée, on est en face à soi-même et la nuit, face à ses démons. Voilà. Et ça, donc moi, j'ai commencé le livre à Bordeaux et je l'ai terminé à 3 km d'une quelconque habitation. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant de voir cette dualité. Enfin, voilà, je me suis déplacée géographiquement en même temps que Gabriel. Et est-ce qu'elle ne pouvait avoir ces révélations ? Est-ce qu'on peut justement s'ouvrir aux autres plus facilement à la campagne ? En tout cas pour Gabrielle, parce que la transition géographique, vous dites bien à chaque fois qu'elle passe, est-ce que la campagne, ouais, et la ville et toute cette dualité dans le roman.
Alors il y a deux choses. Ça pourrait être ailleurs, mais le fait qu'elle soit dans la nature, c'est très important. Le fait qu'elle soit sur cette terre, c'est très important. Elle est reconnectée à cette terre-là, qui a probablement des... Je suis sûre que ça vous est arrivé une fois au moins dans votre vie, de rentrer dans une baraque et d'avoir envie d'en sortir tout de suite. Parce que vous vous sentez super mal. Ça arrive à tout être humain. À certains endroits, se retrouver dans des endroits où ça ne va pas du tout, quoi. Alors quelquefois, on ne l'identifie pas comme ça. Et puis, d'être super mal dans sa vie et tout d'un coup de se retrouver dans la nature et de sentir que tout d'un coup, on respire mieux et on a un moment où ici, c'est aller marcher au bord de la mer ou c'est quelque chose comme ça. La nature est un endroit où on peut se reconnecter. Moi, j'ai un mec chef d'entreprise. Alors, je peux vous dire que c'est moi qui choisis les maisons où on va en vacances. Ça doit être des maisons d'écriture. Pour moi, et ça doit être des maisons où il n'y a pas internet, pas le téléphone, voilà. Alors les trois premiers jours, je l'observe, j'ai l'impression qu'il va crever, mais finalement il s'en sort assez bien. Au bout de trois jours, ça va mieux. Et ben un jour comme ça, je l'ai emmené en Zanzibar, au milieu de nulle part, ben il s'est mis à peindre. Et je pense qu'effectivement, quand on s'isole, on arrive à se reconnecter. C'est pas facile. Le mieux à faire, surtout quand on est chef d'entreprise, c'est de partir avec une rame de papier. Pas de téléphone. Pas rien. Pas de livre. Ça, c'est dur pour moi. Pas de livre, pas de musique. Une rame de papier, un stylo. Alors, c'est très long le temps. Hein. Alors, au début, vous vous dites, c'est génial, je vais rattraper du sommeil. Eh ben non. Eh ben non, parce que quand on est connecté à la nature et qu'on est comme ça, sans rien, on dort moins, on n'est pas fatigué, hein. Mais on ne dort pas du tout, quoi. Donc le temps est encore plus long. Alors autant vous éviter cette peine de le découvrir. Les deux premiers jours, vous avez effectivement l'impression que vous allez crever, que vous n'allez jamais tenir trois jours. En fait, au bout de trois jours, ça va un peu mieux parce qu'on sait qu'il ne va rien se passer. Donc ça décontracte. Le quatrième jour, on a carrément oublié sa famille. Et le cinquième jour, on commence à aborder la jouissance de la chose. C'est long, 5 jours. Hein. Mais c'est vachement bien à faire. Hein. Il faut le faire une semaine par an. Et alors là, on revient. Alors, le monde peut s'écrouler, quoi. Voilà. Bon, mais il faut le faire dans la nature. Après, le faire ailleurs, ça veut dire que vous avez pratiqué la méditation et que vous pratiquez la méditation n'importe où. C'est plus compliqué.
Ça demande compliqué. Des compétences.
Oui, ça demande des compétences, voilà, exactement. Mais ça s'apprend. Hein. La chef d'entreprise qui est la patronne d'Actes Sud, Françoise Nyssen, rêve du moment où elle va pouvoir faire un quart d'heure de méditation avant chaque conseil d'administration. Bon, elle n'y est pas encore, mais je suis sûre qu'elle va y arriver. Elle est très motivée, en tout cas.
Donc vous, personnellement, vous aimez la campagne?
Ah oui, moi j'adore. Oui, c'est pour ça, on n'était pas du tout d'accord avec Gabriel. C'est comme, on me pose toujours des questions sur la fin de ce livre. Oui, une fois qu'on est reconnecté à quelque chose de soi qui est important et qui est vraiment le fait d'être reconnecté, on peut aller ailleurs. Le dernier chapitre est le seul que j'ai écrit après avoir mis la phrase qui est... Il y a une phrase avant chaque chapitre. Et les phrases, elles ont toutes été mises après que les chapitres aient été écrits, distribués.
C'est une question à se poser sur les citations.
Voilà, alors les citations, elles faisaient partie de mes lectures, parce qu'en fait, j'ai lu 42 livres pour écrire celui-là, parce qu'il fallait quand même être renseignée sur pas mal de trucs. Du coup, je n'ai pas posé 42 livres comme ça en me disant « Oh, faut que je les lise ». Non, c'est venu au fur et à mesure. Comme je mets 2 ans pour écrire un bouquin, j'étais assez étonnée, en fait, quand je les ai comptés, parce que... je me suis aperçue qu'il y en avait 42, mais sur le moment, quand je les ai lus au fur et à mesure que j'en avais besoin, c'était pas pesant, quoi. C'était pas beaucoup de livres. Et donc, les citations, c'était des citations que j'avais marquées, que je trouvais au fil de mes lectures et que je trouvais intéressantes. Et puis un jour, j'ai pensé à une dame. Alors, c'est drôle, c'est une dame qui était ici, ma première rencontre chez Mola, qui m'avait dit vous êtes quand même casse-pied, hein, parce qu'à 2h du matin, quand je veux éteindre la lumière, j'attends la fin du chapitre, mais vous, il n'y a pas de chapitre. Donc j'ai pensé à cette dame et je me suis dit quand même la pauvre dame, il faut que je lui fasse des chapitres, je vais essayer de faire des chapitres. Et donc j'ai essayé de faire des chapitres, ça marchait. Puis je regarde ces phrases, je me dis tiens c'est marrant, il y a peut-être une phrase qui va à chaque chapitre. Et j'ai essayé, ça marchait aussi. Donc j'ai fait ça, sauf le dernier chapitre où je voulais mettre absolument ce petit poème de Rinpoche, je descends la rue, je tombe dans un trou, c'est pas de ma faute, etc. Et après quand j'ai écrit le chapitre, alors là, jusqu'à la fin, je me suis dit, mais elle va m'emmerder jusqu'à la fin du bouquin, celle-là. Elle se met à tomber amoureuse à 3 pages de la fin, mais c'est pas possible, cette héroïne, elle est insupportable. Et puis j'ai relu le petit poème et je me suis dit, mais c'est de ma faute. En fait, elle descend une autre rue. Elle a été reconnectée, tout va bien, et en fait, maintenant, elle a toute liberté de descendre une autre rue. Donc c'est de ma faute si j'ai mis ce truc, j'ai conditionné, en fait, le dernier chapitre. Vous voyez qu'on décide de rien, en fait.
C'est pas ça. Et comment vous avez choisi toutes ces citations, justement?
Comme je les avais notées toutes au fur et à mesure de mes lectures, après, je n'ai eu qu'à piocher dans les différentes citations. D'ailleurs, j'en avais beaucoup plus que ça. J'ai dû faire un choix pour mettre ces citations qui étaient le mieux adaptées au chapitre que j'avais... C'est pareil, puisqu'au début, je n'avais pas de chapitre. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup dans celui qui vient. On ne peut pas vraiment dire que ce soit des chapitres. C'est une façon de passer d'un sujet à un autre, un peu comme différents plans dans un film. C'est plutôt ça. Donc voilà, ça dépend des livres aussi. Il y a des livres où on peut le faire et d'autres où on ne peut pas le faire. Mais voilà, les citations, c'était vraiment au fur et à mesure. Ça ne sera pas reproductible. Dans un autre livre, par exemple.
Ah, on aimait bien.
Oui, ça pourrait, mais ça l'est pas forcément.
En tout cas, oui, vous avez mis à la fin du livre, il y a les livres justement que vous avez consultés en partie, et il y a aussi la playlist qui vous a accompagné. Donc les citations, la playlist. Est-ce que tout ça, c'est justement cette énergie, ces intuitions qui sont autour et en quoi la musique, avec des notes, permet la musicalité vraiment de l'auteur et de l'écrivain? Parce que vraiment, vous avez une écriture très fluide, on disait avec Sabine, comme la rivière, justement, qui est très importante sur le terrain. Et voilà, quelque chose de très fluide, et donc toutes ces musiques aussi. Voilà. Quelle est l'importance de la musique pour vous dans ce processus?
Alors la musique, elle est omniprésente pour tous mes livres. Je n'écris pas en musique. Quand j'écris, j'imprime en fait. En fait, je n'écris pas quand j'écris. J'écris quand j'écris pas. Je ne sais pas si je suis très claire. je marche beaucoup,
j'ai plus des légumes, je pense à autre chose, machin, etc. Et là, j'écoute de la musique. C'est à ce moment-là que le livre s'élabore. Mais quand je me mets à ma table et que j'écris, puisque j'écris à la main, j'imprime, ça sort. Si ça sort pas, je vais me balader. Je suis incapable de rester à ma table. Je sais qu'il y a des écrivains qui font ça, qui font une page par jour. Solaire fait ça. Il fait sa page et sa page, elle est finie. Quand il y retouche plus. Moi, j'écris comme un cheval fou qui court dans la plaine. J'écris. Puis tout d'un coup, je m'arrête. Il se passe deux jours où j'écris tous les matins. Et puis après, il se passe une semaine. Enfin voilà, ça dépend des moments. Ça sort. Si ça sort pas, je m'en vais. Et je relis pas non plus jusqu'à ce que ça soit fini d'écrire à la main. Après, je recopie. Donc là, je suis pas en train de relire non plus parce que comme je recopie par petits morceaux, j'aime tellement pas taper à l'ordinateur que je dicte quand je recopie. Et je corrige parce que mon logiciel de dictée, faut le surveiller. Georges lui dit les hommes plus vieux. Il m'écrit PLUVIEUX, vous voyez. C'est joli, hein, il est super romantique, mais je suis obligée de le surveiller quand même. Donc, je dicte. Et une fois que j'ai dicté, relu chaque partie comme ça pour bien surveiller ce qu'a fait le logiciel de dictée, cette fois, je le sors sur papier. Alors là, c'est la grande découverte. Parce que quand on écrit comme ça, dans l'emportement du moment, c'est un peu comme si... C'est un peu comme si on était sous substance. Puis alors après, on n'est plus sous substance et on revoit le concert. Et alors là, waouh ! Là, je suis très découragée la semaine où je le tire sur papier parce que quand je relis, je trouve ça très très mauvais. En fait, la seule consolation que j'ai, c'est que personne ne l'a vu. Donc personne ne sait à quel point c'est mauvais et que peut-être, si je me mets au boulot, je vais peut-être pouvoir l'améliorer. Enfin, c'est vraiment une rude semaine. C'est bientôt. C'est la semaine prochaine. Je dis heureusement que je vais chez Mola avant, sinon j'aurais fait la tronche. Donc voilà, bon, c'est le moment un peu délicat, on va dire. Et c'était quoi la question ?
La musique.
Voilà, donc la musique m'accompagne quand je ne suis pas en train d'écrire. C'est-à-dire quand j'écris, je suis dans le silence. Mais c'est pareil, la musique, elle est complètement différente à chaque livre. Là, il y avait vraiment un... Il y a eu un truc avec Édouard Ferlet, avec Sing Back. Alors, ce qui a été merveilleux, c'est que Édouard Ferlet m'a écrit pendant qu'il lisait Les Brumes de l'Apparence. Alors que son disque Sing Back m'a accompagné tous les matins. Tous les matins, je mettais son disque. Et donc, lui, il m'a écrit quand il a lu Les Brumes. Il était en train d'enregistrer son prochain disque et il lisait Les Brumes le soir. Donc, mon livre l'accompagnait pendant qu'il enregistrait son prochain disque. Donc, c'était absolument charmant. On ne s'est absolument jamais rencontré. On a échangé 2-3 mails et c'était bien, quoi. Donc, voilà, la musique, elle est là. Alors là, elle est encore plus là pour le prochain parce que c'est un chef d'orchestre. Alors là, y a beaucoup plus de musique classique que d'habitude, forcément. Mais elle est toujours là, la musique. Et je mets toujours, effectivement, la playlist. D'ailleurs, pour le voyage de Nina, qui est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans et demi, j'avais une playlist aussi. Elle porte le nom du livre à chaque fois, mes playlists. Et mes enfants, mon mari, prennent les playlists et se baladent avec. Alors, je crois que mon mari avait pris cette playlist et l'avait mise à son bureau. Et il travaille avec des petits jeunes qui lui ont dit « Oh là là, ça c'est la playlist de tes enfants qui sont ados !» Effectivement, l'héroïne a 16 ans et demi, donc c'est sa playlist.
Pour le titre « Les brumes de l'apparence », est-ce que justement il est choisi en amont ? Ou est-ce que le titre vient en amont ou en aval ?
Ça dépend. Le titre est venu tout de suite aussi. Presque aussitôt. Je devais être au premier ou au deuxième chapitre. Donc, je n'étais pas très loin dans le livre. Il est vraiment venu tout de suite. Premier, deuxième chapitre, je ne sais pas. Quand elle arrive là-bas et sur le terrain. En fait, c'est assez bizarre parce que... Il est venu avant qu'elle ait cette rencontre avec l'irrationnel. J'aurais dû me méfier, parce qu'il est vraiment connecté à ça. Tellement connecté que ici, dans le, mais pas ici à Bordeaux, mais dans le profond sud-ouest et dans le Berry, on appelle ça, vous savez, les matins, ces brumes-là, on appelle ça les brumes des jeteuses de sorts auprès des initiés. Donc, il est vraiment connecté à l'irrationnel. J'aurais dû vraiment me méfier du titre. Et après, je découvre les choses. J'ai tout le temps découvert des trucs. À un moment où je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? Alors, à la fin, quand on se rapproche de la fin et qu'elle est dans cette baraque, là, pas terrible, là, avec les trucs sur les murs et tout, je me disais, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ce bouquin ? Mais je me suis complètement égarée, là, faut arrêter, faut écrire autre chose et tout ça. Et j'étais en train d'arranger mon imprimante en pensant à ça. Et mon imprimante est à côté de ma bibliothèque. Et ma bibliothèque, c'est des trucs en dur. C'est pas une bibliothèque, c'est pas un meuble. C'est des étagères qui sont dans le mur. Et à ce moment-là, sans courant d'air donc, il y a un livre qui me tombe sur la tête, mais comme ça, genre tu vas arrêter de nous emmerder là. Et c'était Démons et sortilèges. Je suis dit, bon d'accord, ok. Oh, d'accord, super. Et ça a été tout le temps ça, hein, de toute façon. Tout le temps, j'avais des espèces de rappels. J'ai fini par les appeler les invisibles. Parce qu'au bout de la 15e coïncidence, truc étrange, etc., on finit par dire, bon, ok, ça va, c'est bon. N'en jetez plus, je me calme. Et par accepter, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus ou de moins. Ah oui, petite anecdote qui va vous faire rire. À la fin du livre, j'ai eu Didier Van Kovelaert au téléphone, qui est très coutumier de toutes ces histoires et que je ne connais pas très bien, pour une raison tout à fait autre. Et il me dit, ah, je lui explique, forcément, comme je sais qu'il a fait plein de bouquins autour de ça, je lui explique ce que j'étais en train d'écrire. Il me dit, ah, bah, tu devrais venir à Cavaillon, il y a le festival science et fiction. Bon, moi, je suis en train de terminer mon bouquin, je n'ai pas du tout envie d'aller à Cavaillon, ça ne m'arrange ni financièrement, ni rien du tout. Donc, je lui dis, oui, d'accord, ok. Il me donne le nom de la personne qui organise, que je ne note pas, puisque je n'ai pas l'intention d'y aller. Voilà. Et le lendemain matin, la madame qui organise m'appelle. Elle me dit, bon, alors, je suis très contente, je vous ai trouvé une chambre dans le même hôtel que Didier. Vous voulez partir à quelle heure, vendredi ? Puis elle me dit, bon, puis comme je ne veux pas vous faire venir pour rien, bah, je vous ai trouvé une signature au Lézard Amoureux, vous allez signer avec un scientifique et tout. Donc du coup, elle m'invite, du coup, je ne peux pas dire non. Donc je vais à Cavaillon, un peu embêtée quand même, parce que ça va me prendre 3 jours, etc. J'arrive, je vois Didier qui est occupé avec un des conférenciers, qui me fait bonjour, qui vient vers moi et qui me dit, oh là là, je suis occupée. Puis il se retourne, en fait, il était embêté, Didier ne voulait pas me laisser toute seule, vous voyez que je ne connaissais personne. Il chope une dame qui était sur le côté, il dit, tu connais la grande médium Marie-France ? Marie-France, Frédéric de Gelt. Et puis il s'en va. Et donc je me retrouve avec la grande médium Marie-France. Et donc elle me dit, ah mais de Gelt, mais vous êtes parente avec le chanteur ? Je lui dis, bah écoutez, oui, c'est le frère de mon père. Il n'était pas mort à l'époque. Et elle commence à me parler de lui. Alors je lui dis, mais vous le connaissez ? Elle me dit, non, puis elle continue. Et puis elle me dit, ben, il a été très, oui, puis il a été très affecté de la mort de votre père. Alors là, ça devient étrange. Hein. Elle me dit, Lucien, oui, je le vois, Lucien. Alors il est pas du tout comme à la fin avec son cancer du poumon. Là, il a pas du tout aimé quand il était tout décharné. Là, je le vois à peu près à l'époque où il vous a eu, 23, 24 ans. Elle me décrit donc mon père. Alors moi, je dis rien. Hein. Surtout, ne pas lui donner d'infos. Et je reconnais, par contre, parce que comme j'ai lu plein de bouquins et que je suis à la fin du mien, je reconnais ce qu'elle fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une madame qui perçoit les morts à travers vous. On peut percevoir des gens que vous avez aimés, quand on est médium, à travers vous. Mais là, elle le voit. Elle me le décrit, elle me dit « Ah, mais il vous ressemble vachement, il a les mêmes yeux. » Donc, elle ne connaît ni ma famille, ni mon oncle. En plus, le piège, c'est qu'il ne ressemble pas du tout à mon oncle. Enfin, mon oncle était blond aux yeux bleus et lui, pas du tout. Effectivement, on se ressemble beaucoup. Donc, tout est comme ça. Et puis, elle me raconte des choses par rapport à mon enfance, à ma mère, enfin, des choses voilà, qu'elle ne sait pas, normalement, que lui, lui dit. Et elle me dit, il va accompagner ce bouquin et il est revenu pour vous accompagner pour ce livre un peu lourd, n'est-ce pas ? Et là, dans un dernier sursaut de rationalité, je me rappelle que cette dame ne sait absolument pas que je suis écrivain et que j'écris et que machin, enfin bref, elle ne sait rien en fait sur moi. Donc je suis par terre, comme vous imaginez. Et puis alors après, la journaliste reprend le dessus. Malgré tout ce qu'elle m'a dit, je vais voir les gens et je dis, vous la connaissez, la grande médium, là et donc, alors ils ont tous fumé la moquette dans ce salon. Il y a un type qui est rédacteur en chef de je ne sais plus quel journal qui me dit, oui, je la connais depuis 10 ans. Et d'ailleurs, quand ma grand-mère a un truc à me dire, elle m'envoie un texto. Je suis la grand-mère décédée, évidemment. Ouais, j'ai bien fait de venir. Donc, je pensais que j'étais folle en écrivant ce bouquin. Donc là, j'ai découvert que non, il y avait pire que moi. Et puis toutes les infos qu'elle me donne sur mon père et sur la façon dont il m'a accompagnée sur le bouquin, là je commence à découvrir qui était là, quoi. Et elle me dit, il vous accompagnera jusqu'à la sortie du livre. Le bouquin, il sort un an après ça, donc j'oublie cette phrase. Je vais à la grande librairie un an après, quand le livre sort, donc complètement bouleversée de me retrouver en plateau, parce que moi je suis journaliste, j'ai pas choisi ce côté-là de la caméra, hein, j'ai choisi l'autre côté, c'est moi qui prépare des émissions, et je suis sur le plateau sur lequel d'habitude je préparais des émissions, vous voyez le problème. Je suis déjà perturbée par le fait de passer devant la caméra, et d'être avec 4 mecs qui ont beaucoup plus l'habitude que moi, en l'occurrence Jean-Claude Carrière, Gilbert Sinoué, et puis Antoine Sénanque, non 3. Et puis Bunel. Bunel, j'aurais bien pris sa place. Parce que ça, je sais faire. Interroger des gens, machin, etc. Ça, c'est mon truc. Mais répondre sur ce qu'on a écrit, c'est compliqué. Et donc, vous savez, dans la grande librairie, il y a un moment où on vous emmène dans une librairie. Voilà. Et donc, Bunel annonce la librairie. Alors, la librairie est à Bordeaux. Donc, la ville où j'ai grandi avec mon papa. Et la librairie s'appelle La Mauvaise Réputation. Et mon père chantait toutes les chansons de Brassens. Alors donc là, je suis encore plus par terre, enfin, je m'en sors pas, quoi. Donc je réponds aux questions, j'ai mis le pilote automatique. Et quand je sors de l'émission, passablement perturbée, mon attaché de presse me dit « Ouais, c'était très bien !» Et puis alors j'ai oublié de te dire, t'es invité chez Alain Weinstein sur France Culture. Attends que je te dise, alors l'enregistrement c'est le 9 avril. Donc le 9 avril, c'est le jour où mon père est mort. Donc il y a un moment où vous dites, vous êtes entre le fou rire nerveux et la consternation, et vous dites, bon, ça suffit, là, j'ai compris, c'est bon. On se calme, je suis d'accord. Ok, il est là. Mais c'est perturbant quand même.
C'est ce qu'on disait en introduction, justement, le fait que ce sujet touche énormément à l'intime, en fait.
Absolument.
De chacun, enfin nous, en tant que lectrice... Voilà, on ne savait pas trop comment commencer notre session de travail parce que le fait d'aborder le sujet, on allait toucher à l'intime, forcément. Et donc, on s'est même demandé, en tant que lecteur, est-ce que ça n'allait pas être difficile, justement, pour vous, d'un point de vue purement commercial, quand des lecteurs ont du mal à partager autour d'un livre, tellement ça touche à l'intime, à l'histoire de chaque personne.
C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le purement commercial, je m'en fous. Tout ce que je vous ai dit là, on se le dit. On se le dit parce qu'on le vit. Parce que dans la vie de chaque femme et de chaque homme, il y a des gens qui disparaissent et qu'on aimait. Dans la vie de chaque femme et de chaque homme, il y a des enfants qui s'en vont avant d'être nés. Dans la vie de chaque femme et de chaque homme, il y a ces choses humaines qui nous relient et que l'on partage. Donc en fait, moi, le commercial, en parlant ou pas correct ou politiquement machin, ça m'est égal. Voilà. Donc je partage et c'est ce qui fait que les livres donnent des occasions d'être authentiques. Et ça pourrait être à tous les niveaux. C'est-à-dire que si tout d'un coup, les gens étaient moins dans leur enfermement et plus dans leur humanité, ce serait mieux pour tout le monde. Je pense que vous le ressentez certainement ici, mais d'un peu loin, mais je peux vous dire qu'en ce moment à Paris, les gens se parlent dans le métro. Ils sont gentils les uns avec les autres. Ça n'a peut-être pas duré, mais en tout cas, c'est le cas. Ils sont connectés. Jusqu'à maintenant, j'avais vu ça qu'en Inde. Alors, on n'est pas au niveau des Indiens encore, mais je dois dire que, vu les circonstances, c'est fort agréable de le sentir comme ça. C'est... Il y a presque un an, quand il y a eu les événements, les gens qui écrivent et qui dessinent ont été plus troublés que les autres. Ce n'est pas une accusation, mais c'est une constatation. Et on a dit haut et fort à ce moment-là, attention, les premiers qu'on enlève, c'est les livres, on les brûle. Les premiers qu'on tue, c'est ceux qui parlent ou qui dessinent. Mais on n'a pas été entendu complètement. Et c'est fort dommage parce que sinon les choses auraient été mises en place avant. En fait, là, on a été entendu parce qu'on avait raison. Et parce que ça ne concernait pas que nous, ça concernait aussi tout le monde. Et comme j'écris et qu'autour de moi, il y a des gens qui font de la musique, je n'ai pas une seule personne dans mon entourage qui n'est pas touchée par ce qui s'est passé. Voilà, mon fils avait rendez-vous dans un des bars avec une copine qui est blessée, les quatre autres sont morts. Voilà, il y a une forte présence de quelque chose que l'on perçoit, ce qui vient est perçu quand on écrit, quand on dessine. On le perçoit à notre insu, en fait. On le raconte à notre insu. C'est déjà dans les bouquins ce qui s'est passé. Donc la fiction, c'est à la fois ce qui nous prévient, mais c'est aussi ce qui nous aide à vivre. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux, c'est que le mal et l'antidote sont déjà dans les bouquins et sont à égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une face sombre et pas de lumière. Vous n'avez pas d'ombre si vous n'avez pas de lumière. Quand on est dans le noir complet, il n'y a pas de lumière. Donc quand on voit l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière. Après, pour faire ce rapport entre la fiction et le réel, elle est tout le temps là. Ce rapport entre la fiction et le réel est tout le temps là. Et par exemple, il y a Star Wars qui va sortir. Et alors, on vous parle tout le temps du bien, du mal, du côté obscur, de la force, de machin. Mais curieusement, dans le réel, on n'en parle pas. Mais il y a un moment où on fait un choix. Et ce choix n'est la responsabilité que de soi-même, même quand on est très jeune. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film La Chute, qui était tiré d'un livre, il y avait cette réflexion de cette Allemande qui se disait que pendant longtemps, elle avait cru que c'est parce qu'elle était jeune, qu'elle était allée être la secrétaire d'Hitler, etc., qu'elle avait vécu ce truc, qu'elle avait été embarquée. Et puis un jour, elle est tombée sur un monument à une résistante allemande qui avait 19 ans. Et elle s'est rendue compte que ce n'était pas une question de jeunesse. Et ce choix existe. Et il existe à tout âge. Et quand on a 10 ans et qu'on est dans une cour d'école, on sait très bien qu'on est un salaud quand on casse la gueule à un autre. On le sait quand on a 10 ans, ça. Surtout si on était plusieurs sur lui. Donc on est tous allés dans des cours d'école, donc on est tous au courant de ce choix. Et c'est bizarre, j'avais posé la question à une directrice d'école, il n'y a pas très longtemps, qui partait en retraite, et je lui avais demandé qu'est-ce qui avait changé depuis qu'elle était directrice d'école, 45, 50 ans. Elle m'a dit, l'année dernière, j'ai eu affaire à un enfant de 5 ans qui en avait payé un autre pour casser la gueule à un troisième. C'est nouveau. C'est intéressant. C'est des comportements intéressants. Et je ne sais pas où quelle était la question, là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les livres sont nos accompagnants et sont nos veilleuses. Les écrivains sont des allumeurs de réverbères. D'ailleurs, quand vous allez en Afrique, dans l'aéroport, ça dépend où d'ailleurs, mais bon, je l'ai vu en Côte d'Ivoire, non, au Sénégal. Il y a un réverbère et puis il y a plein de gens qui lisent sous le réverbère parce que chez eux, il n'y a pas de lumière et des choses comme ça. Voilà. C'est réjouissant de voir des choses comme ça. C'est tout d'un coup une espèce de truc comme dans le métro où tout d'un coup, tout le monde... Je rentre dans un wagon, ça n'arrive pas toujours. Certains jours, on rentre dans un wagon et tout le monde a son téléphone. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de lire en même temps. Hein. Mais bon, l'autre jour, je rentre dans un wagon, ils étaient tous en train de lire des livres, papier. Je dis, c'est un complot, c'est des potes qui m'ont fait une farce et tout. Mais tout le monde, j'ai regardé, il n'y avait pas une personne. Je me suis dit, c'est un petit clin d'œil de la vie le matin. C'est, voilà, ils étaient tous comme ça, plongés. C'était super.
Et donc justement, Sabine, tu voulais lire un petit passage sur les transports en commun.
Oui, il y a un passage...
Sur les transports en commun où on pourrait croire qu'on n'a pas quelque chose en commun, c'est ça ? Enfin, vous le dites sûrement mieux que moi, mais... Et vous faites la démonstration du contraire.
C'était joyeux à écrire ça.
Ouais, ça nous a fait éclater de rire. En réalité, c'est l'héroïne qui rentre à Paris, mais qui a un nouveau regard. Et puis elle raconte, tout d'un coup, la rame vient de s'immobiliser à Madeleine, exactement là où nous devions arriver, mais les voyageurs ne sont plus les mêmes. Je ne me souviens pas de tous les visages, mais c'est à l'ambiance que je le constate, à l'air heureux des passagers qui évoluent dans le wagon. D'autres voyageurs montent en riant, ils saluent tout le monde. L'un s'adresse à ma voisine. « Ah, vous lisez le Goncourt des lycéens de l'année dernière. J'ai hésité à l'acheter. Vous comprenez, une histoire de recluse au XIIe siècle, ça m'effrayait un peu. » « Ah non, répond la femme avec passion, n'hésitez plus, c'est merveilleux. Il lui arrive un nombre incroyable d'aventures entre ces quatre murs et quelle écriture sublime. Moi, j'avais adoré son histoire de cœur cousu, son premier livre. » Intervient alors une autre dame de l'autre côté du siège. Autour de nous, tout n'est que brouhaha joyeux, on s'interpelle, on papote, et si l'on s'apostrophe, c'est avec humour. C'était juste, je ne vais pas lire tout le passage, mais c'était juste que ce passage nous a fait éclater de rire tellement ça pourrait être ça demain, et vous dites que ça l'est un petit peu plus aujourd'hui, puisque les gens se regardent et se parlent. Ouais. Et pourtant, c'est juste tellement proche et à la fois tellement loin de ce qu'on vit.
Oui, et puis si ce qui était important dans ce passage, c'est que c'est une généralité. En fait, ce qui améliorerait nos vies n'a pas de coût. Terrifiant, hein ? Ça ne coûte pas d'argent. Ça ne coûte pas d'argent de se sourire, ça ne coûte pas d'argent d'être bienveillant envers les autres. Ce qui vraiment améliorerait notre vie n'a aucun coût. C'est une mauvaise nouvelle. Mais il y a une étude absolument magnifique de scientifiques qui ont découvert, justement, c'est cette histoire des particules, c'est ceux qui travaillent justement sur la physique quantique. Ils ont découvert qu'il vaut mieux habiter... En fait, c'est la proximité des gens heureux qui vous rend heureux. Ça a une vraie influence. C'est-à-dire que si vos potes sont heureux, mais ils habitent loin de chez vous, et que tous les gens de l'immeuble dans lequel vous vivez sont affreusement malheureux, c'est terrible pour vous. Vous avez intérêt à déménager. Donc, si les gens sont heureux dans l'immeuble dans lequel vous vivez, eh bien, c'est une très grosse influence parce qu'il y a une espèce d'échange de particules. Je ne vous dirai pas comment ça marche, mais en tout cas, ils ont découvert ça. Donc, c'est très intéressant. Vous n'avez plus qu'à inviter tous les gens de l'immeuble dans lequel vous vivez, vous leur bourrez la gueule et c'est formidable. Et après, non, mais cela dit, c'est vrai que quand on se croise et qu'on a fait un pot avec tout le monde, c'est plus difficile de dire au mec du deuxième que c'est un sale con parce qu'il fait du bruit. C'est une réalité très simple. Connaître l'autre, ça permet d'être plus sympa. Mais bon, voilà, c'est des choses qui pourraient être faciles à appliquer, en fait. Et de la même façon que j'entends, là, depuis le week-end, « Oh, mais alors les politiques, ils n'arriveront jamais à rien faire avec la planète, machin, c'est des cons, ils n'y arriveront jamais, etc. » C'est débile. C'est à nous de le faire. On dit, ça ne nous plaît pas ce qu'ils font ? Ok, on arrête. On pose. On s'arrête. On a une puissance extraordinaire. C'est exactement, je ne sais pas si vous avez vu les suffragettes, allez voir ça avec vos filles. C'est magnifique, le moment où il lui dit, on vous arrêtera. Il dit, vous ferez comment ? Vous nous arrêterez toutes ? On est la moitié de l'humanité. Ben oui, on est la moitié de l'humanité. Ailleurs, il y a quand même c'est une très très bonne nouvelle, il y a les trois quarts des humains qui aimeraient bien vivre peinard. Donc on n'a plus qu'à faire quelque chose avec le dernier quart, hein, a priori. Je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, c'est un chiffre à peu près juste, paraît-il.
Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir.
Merci beaucoup à vous.